Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bon réveil à tous et bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ils ont quitté la pelouse pour ne plus revenir. Les footballeurs d'un match de Ligue des Champions à l'échelle européenne ont refusé de jouer hier soir. Et ce, après des propos jugés racistes de la part d'un arbitre. Retour sur cet acte inédit pour le football européen, sur les retombées géopolitiques et sociétales qu'il pourrait avoir.
Nous reviendrons ensuite sur les questions de laïcité à l'occasion d'un projet de loi présenté ce matin. Le gouvernement souhaite lutter contre le séparatisme islamiste, mais les réponses, notamment à l'école, doivent-elles venir d'en haut ou partir du terrain ? Nous poserons la question.
Nous irons ensuite en Allemagne, où les restrictions de circulation se durcissent face à la deuxième vague de Covid-19, deuxième vague qui semble grossir outre-Rhin.
De la prison ferme requise contre Nicolas Sarkozy, idem pour ses deux co-prévenus dans l'affaire dite des écoutes, verbatim du réquisitoire du parquet dans ce journal.
Et puis nous entendrons un représentant de pêcheurs normands alors que de gros navires pêchent en ce moment au large de Fécamp. Cela rappelle l'engagement des sportifs aux États-Unis contre l'injustice raciale. Hier soir, sur une pelouse européenne, les joueurs n'ont pas mis un genou à terre, mais ils ont décidé de quitter le terrain. Une première à cet échelon. C'était lors d'un match de Ligue des Champions entre les Parisiens du PSG et les Turcs du Başakşehir. Fin de la partie dès la 14e minute de jeu. Alexandre Vaux, bonjour.
Bonjour Clara.
Les joueurs ont en fait réagi à des accusations de racisme portées à l'encontre du quatrième arbitre, celui qui se trouve au bord du terrain.
Une scène totalement inédite, vous l'avez dit, c'est un arbitre qui désigne à l'arbitre central un membre de l'encadrement du club turc qui proteste trop vivement. C'est le noir ici, va voir et identifie-le, ce noir, ce gars, dit-il. Le ton monte alors immédiatement avec l'entraîneur adjoint visé. Why did you say negro? Pourquoi tu m'as traité de nègre? Colère immédiate des joueurs turcs, très vite rejoint par tous les Parisiens, une fronde jamais vue, vous l'avez dit, sur un terrain de foot. Les joueurs quittent la pelouse et ne reviendront pas. Après plus d'une heure de flou total, l'UEFA annonce que la rencontre reprendra ce soir. Entre-temps, les réactions pleuvent de toutes parts, dont celle du président turc lui-même, Recep Tayyip Erdogan, condamne les propos racistes. Le club du Başakşehir Istanbul appartenant à des membres de l'AKP, le parti politique d'Erdogan.
Et dans la foulée de cette première réaction de la part d'Ankara, Alexandre, de nombreuses personnalités se sont exprimées.
Avec un slogan « Not to racism » posté par le club turc et qui est devenu très rapidement viral sur Twitter hier soir. De nombreux footballeurs l'ont repris. Ce mouvement inédit a dépassé complètement les frontières du foot, mais il doit marquer un renouveau. En tout cas, c'est l'espoir du président des SOS Racisme, Dominique Sopo.
On voit en tout cas qu'on est bien loin de ce que disait Noël Le Graët il y a quelques semaines en expliquant qu'il n'y avait pas de racisme au sein du football. Et donc j'espère que ce geste des joueurs va enclencher un nouveau cycle de prise de conscience du caractère intolérable du fait de désigner des joueurs à travers leur couleur de peau lorsque l'on est un officiel.
Une spontanéité, vous l'avez dit justement, qui fait penser au mouvement Black Lives Matter né aux États-Unis qui s'est rapidement propagé dans beaucoup de sports. On ne sait pas si les joueurs de foot mettront un genou à terre avant le coup d'envoi, mais il y a fort à parier, Clara, qu'ils marqueront le coup ce soir.
Merci beaucoup Alexandre Vaux pour ces précisions ce matin. La date n'a pas été choisie au hasard. C'est en ce 115e anniversaire de la loi de 1905 séparant les églises de l'État que le gouvernement français présente ce matin son projet de loi confortant les principes de la République. Le nom aussi n'est pas dû au hasard. Plus consensuel qu'un texte de lutte contre les séparatismes, comme le souhaitait Emmanuel Macron. Ce texte, donc ce projet, prévoit notamment la création d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui si l'on diffuse des informations relatives à la vie d'une personne qui mettrait sa vie en danger. Pensée évidente à Samuel Paty, professeur des Yvelines, visé sur les réseaux sociaux puis assassiné par un terroriste à la mi-octobre. Les professeurs sont-ils assez formés et accompagnés pour parler notamment de laïcité ? Oui, selon Pascal Goutagny, elle est référente laïcité du groupe Valeurs de la République à Dijon, groupe mis en place par le ministère de l'Éducation.
On organise les formations des professeurs. Par exemple, on va organiser mi-janvier un grand séminaire sur les valeurs de la République et la laïcité. Du point de vue juridique, ça va être sur la laïcité à l'école. Et puis, il y a une autre partie sur quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est sur le développement d'esprit critique chez les élèves, à partir du travail sur les médias, pour aussi toute cette initiation des élèves à faire attention aux sources, quel que soit le sujet. Et là, ce sont des professeurs de toutes les disciplines qui vont être envoyés par leur établissement.
Voilà ce qui existe actuellement. Mais la meilleure formation reste tout de même celle du terrain, lui répond Christine Guimonet. Elle est secrétaire générale de l'Association des professeurs d'histoire-géographie.
La formation la mieux pensée, finalement, c'est celle qui part du terrain. Par exemple, demandez aux enseignants dès le début de l'année quelles sont les thématiques sur lesquelles vous sentez chez vous un besoin de formation, avoir non pas des recettes de cuisine, parce que c'est pas du tout de ça dont on a besoin, mais des situations claires, qui sont explicitées, qui répondent à ce qui peut se produire dans les classes. Je pense que ça sécurise les collègues. C'est-à-dire se sentir soutenu et avoir la conviction et l'expérimenter dans leur vie quotidienne qu'en cas de problème, l'institution fait corps avec eux.
Des propos recueillis pour France Culture par Sarah Ders. Voilà pour les problématiques que soulève ce projet de loi, notamment à l'école. Un projet pour libérer des musulmans de l'emprise croissante de l'islamisme radical sur l'expression de leur foi. Les mots sont du Premier ministre Jean Castex ce matin dans les colonnes du Monde. Est-ce une réponse adaptée aux enjeux du séparatisme, de la laïcité dans le pays? Non, si l'on en croit Washington qui se mêle au débat. Un responsable de l'administration Trump s'interroge publiquement sur le concept de laïcité à la française, Grégory Phillips.
Samuel Brownback est un ancien gouverneur républicain du Kansas, nommé il y a 2 ans, émissaire des États-Unis pour la liberté religieuse. Il dépend directement du département d'État. Interrogé hier par téléphone par une poignée de journalistes américains et étrangers, Brownback fait part de son inquiétude vis-à-vis de la situation en France. Le rôle du gouvernement doit être, affirme le diplomate, de protéger la liberté religieuse. Si l'on est trop répressif, alors la situation peut s'aggraver. Il faut, conclut-il, un dialogue constructif. La critique intervient alors que ces dernières semaines, notamment après l'assassinat à Conflans-Sainte-Honorine de Samuel Paty, les grands journaux de la côte Est, Washington Post, New York Times, avaient jugé que la politique du gouvernement français ne faisait qu'aggraver l'islamisme. Emmanuel Macron a répondu à plusieurs reprises, expliquant sa vision de la laïcité à la française et affirmant que son gouvernement luttait contre le séparatisme islamiste et jamais contre l'islam. Visiblement, le message n'a pas été entendu par l'administration Trump.
Emmanuel Macron, qui aurait changé d'avis sur les questions régaliennes à l'aube de ce projet de loi sur les principes républicains. En tout cas, Frédéric Seyss s'interrogera à ce propos dans son billet politique après cette édition. Et quelques mots encore des États-Unis où nous étions à l'instant concernant maintenant la pandémie de Covid-19. Donald Trump a fait hier soir l'éloge de la rapidité américaine pour fabriquer un vaccin fiable. 100 000 doses de vaccins ont été commandées pour un pays qui compte 3 fois plus d'habitants. Et sachez qu'au même moment, hier soir aussi, le président élu Joe Biden a lui promis de rendre le port du masque obligatoire dès son arrivée à la Maison-Blanche le mois prochain. Le Covid-19 en Allemagne, là aussi la politique devrait se durcir dans les jours qui viennent. Le reconfinement léger mis en place début novembre et prolongé au début du mois n'a pas freiné le nombre de nouvelles infections sur une semaine. Bien au contraire, voilà ce que montrent les chiffres. La Bavière, depuis minuit tout à l'heure, est entrée en confinement strict et la Saxe, région la plus touchée du pays, le fera à partir de lundi prochain. Le reste de l'Allemagne pourrait suivre, Ludovic Piétenu.
L'effet domino est à prévoir dans presque toute la République fédérale allemande. Quand une puis deux régions, comme ici la Bavière et la Saxe, prennent des décisions, on l'a vérifié depuis le début de cette pandémie, les autres suivent. L'heure est donc à un confinement beaucoup plus strict, l'inverse de ce qui avait été envisagé avec un peu plus de liberté entre Noël et la Saint-Sylvestre, peut-être parce qu'on a collectivement sous-estimé cette deuxième vague, suggérait hier le ministre-président de Bavière, Markus Söder, juste avant de voter l'état d'urgence. On doit prendre cette épidémie beaucoup plus au sérieux. Il ne suffit plus d'appeler à la responsabilité individuelle. Beaucoup participent de manière formidable, mais pour d'autres, c'est plus difficile. Et puis, il y a ceux qui n'entendent rien. Cette stratégie de l'autoresponsabilité, plaidée par Angela Merkel et qui avait fait ses preuves pendant la première vague, montre aujourd'hui ses limites. Des premières régions la contestent. La chancelière devrait donc intervenir d'ici la fin de la semaine et suivre, on sait qu'elle leur prête une oreille attentive, cet appel rare lancé hier par l'Académie des sciences. Si l'Allemagne veut s'en sortir, il ne faut aucun contact pendant les fêtes, écrivent ces scientifiques. La vie publique doit être mise au repos au moins jusqu'au 10 janvier.
Ludovic Piétenu. En France, le confinement pourrait être assoupli mardi prochain, le 15 décembre. Pourrait être, car depuis une semaine, la courbe épidémique n'arrive pas à descendre en dessous du seuil des 10 000 contaminations par jour. Encore plus de 13 000 nouveaux cas positifs recensés ces dernières 24 heures.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. 4 ans de prison de 2 fermes. Voici la peine requise contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes au tribunal correctionnel de Paris.
Oui, 4 ans de prison dont 2 fermes à l'encontre de l'ancien président de la République, à l'encontre aussi de l'avocat Thierry Herzog et de l'ancien magistrat Gilbert Azibert. Ils sont poursuivis pour corruption et trafic d'influence. Le parquet a donc requis la même peine lourde pour ces 3 prévenus dans un réquisitoire méthodique de près de 5 heures que vous avez suivi pour France Culture. Anne Fauquemberg, vous nous racontez.
Une justice qui ne passe pas et source de mots qui ne s'effacent pas, a déclaré le procureur Jean-Luc Blanchon, fustigeant une double transgression. Pour Thierry Herzog et Gilbert Azibert, celle d'avoir franchi les règles du serment qui encadrent les fonctions d'avocat et de magistrat. Pour Nicolas Sarkozy, celle d'avoir oublié la République et ce qu'elle porte depuis plusieurs décennies, un état de droit. Aucun doute pour le ministère public, l'ancien chef de l'État a bien obtenu, via son avocat, des informations couvertes par le secret auprès du magistrat Gilbert Azibert en contrepartie d'un poste à Monaco et dans une procédure le concernant à la Cour de cassation. On a laissé penser que les institutions judiciaires pouvaient succomber à ceux qui ont le pouvoir et les réseaux pour l'exercer, ajoute le procureur. Les réquisitions tombent. Sévères donc, 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour les 3 prévenus. Pour la première fois depuis le début du procès, Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, monte au créneau.
J'ai surtout entendu 3 semaines d'audience et un parquet muet. Un parquet qui était mis chaque jour un peu plus face aux failles, à l'inexistence, à la vacuité de son accusation. Ces réquisitions sont en décalage total avec la réalité de cette audience. Et ce que je peux vous dire également, c'est que toutes ces accusations-là nous en font litière très facilement lors de nos plaidoiries.
Les plaidoiries se tiendront jusqu'à jeudi. C'est la première fois qu'une peine de prison est requise contre un ancien président sous la Ve République.
Un plaidoirie de la défense donc jusqu'à demain jeudi. Devant la cour d'assises spéciale de Paris maintenant, notez les réquisitions concernant les complicités éventuelles pour les attentats de janvier 2015 ont été requis contre les 14 accusés entre 5 ans de prison et la réclusion criminelle à perpétuité. L'actualité nous amène à présent au nord de la France, en bord de Manche, où depuis 2 jours, 8 chalutiers géants, entre 80 et 120 mètres, pêchent au large de Fécamp, avec une capacité de 200 tonnes par navire. C'est tout à fait légal, mais pas du tout éthique pour les pêcheurs artisans et pour la diversité marine. C'est ce que veut souligner en tout cas Dimitri Rogoff. Il est le président du comité régional des pêches et des élevages marins en Normandie.
Il faudrait d'abord commencer par dire que c'est effectivement pas une pêche illégale. Ça fait nombreuses années qu'on voit ces bateaux-là arriver. Il y a 2 choses. Il y a l'atteinte aux écosystèmes, qui est quelque chose qui n'est pas évalué. On aimerait bien avoir une évaluation là-dessus. C'est quand même des grosses prises dans un espace extrêmement restreint qu'est la Manche. Deuxième point, c'est le modèle économique, quoi. Et là, évidemment, ce n'est pas le modèle économique qu'on défend. Ces flottilles étrangères en grande partie, mais dont certaines battent pavillon français, mais sont sous capitaux étrangers, les France Pélagiques notamment, ces bateaux-là ont des tonnages énormes puisque ça va vers des marchés éloignés, des marchés africains. C'est pas une bonne façon de valoriser les ressources. Et puis ça ne procure surtout aucune retombée économique sur le littoral normand. C'est vraiment des usines faisantes, c'est des bateaux énormes. Dans un endroit si petit, venir prélever des quantités de poissons aussi énormes, ça a un impact fort et ça se fait au détriment des côtiers.
Des propos recueillis par Amélie Bonté de France Bleu Normandie pour France Culture. C'est jour de deuil national ce mercredi en France. Hommage discret de la nation à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, décédé à l'âge de 94 ans. C'est la 9e fois sous la 5e République que ce deuil national est décrété, Rosalie Lafarge.
La première fois, c'était il y a tout juste 50 ans.
Française, Français. Le général de Gaulle est mort.
Le 12 novembre 1970, premier jour de deuil national sous la 5e, décrété par le président Georges Pompidou pour rendre hommage à Charles de Gaulle. 4 ans plus tard, c'est non plus par mais pour Georges Pompidou qu'une nouvelle journée de deuil national est décrétée. Les drapeaux sont de nouveau mis en berne, les écoles et les administrations fermées. Elles resteront ouvertes le 11 janvier 1996, mais là aussi les drapeaux descendront à mi-hauteur de main en l'honneur de François Mitterrand, tout comme ils l'ont été l'an dernier lors de la journée de deuil décrétée par Emmanuel Macron après la mort de Jacques Chirac. Mais cette décision n'est pas prise uniquement pour les chefs d'État. Jacques Chirac a par exemple décrété une journée de deuil national le 14 septembre 2001.
C'est en effet avec une immense émotion que la France vient d'apprendre ces attentats monstrueux qui viennent de frapper les États-Unis d'Amérique.
Première et seule fois jusqu'ici que le deuil national honore des personnes décédées en dehors de notre territoire. Mais c'est encore à cause du terrorisme que nous en avons eu d'autres. Le 8 janvier 2015, après l'attentat contre Charlie Hebdo, les 15, 16 et 17 novembre de la même année, après les attentats du 13 novembre sous François Hollande.
J'ai pris un décret pour proclamer le deuil national pour 3 jours.
3 jours de deuil national seront aussi proclamés après l'attentat de Nice l'année suivante. À chaque fois, sauf en 1974, c'est un décret pris par le président, puis des modalités précisées par le Premier ministre. Ainsi, pour Valérie Giscard d'Estaing, la circulaire signée par Jean Castex prévoit notamment la mise en berne des drapeaux et un moment de recueillement à midi.
Des drapeaux sous la neige à l'est de la France et sur les Pyrénées aujourd'hui, sous la grisaille sur le centre du pays et sous la pluie à l'ouest. Voilà les prévisions de Météo France. Ce matin, il fait entre 1 et 8 degrés du nord au sud, Guillaume.
L'occasion sous la grisaille d'écouter les podcasts que France Culture vous propose sur la laïcité, notamment ceux auxquels a participé Patrick Veil, l'historien que vous allez pouvoir entendre dans quelques instants, puisque c'est mon invité en ce jour particulier où l'on célèbre les 115 ans de cette loi de 1905. Dans quelques minutes, vous retrouverez nos camarades Hervé Gardette pour sa transition, Géraldine Mosna-Savoie pour son carnet de philosophie, et puis Arnaud Laporte qui donnera la parole à un artiste, et puis un billet politique avec vous, Frédéric Saïs. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler?
Projet de loi renforçant les principes républicains présenté donc aujourd'hui en Conseil des ministres. Sur ce sujet, pourquoi et comment Emmanuel Macron a durci son discours au fil des ans?
Dans quelques instants.